bonsoir Tristan. Donc voilà, c'est un rêve que j'ai su au mois d'août dernier, qui m'a beaucoup marqué. Donc je suis dans un opéra et j'assiste à une répétition. Et le metteur en scène, qui est à la fois le compositeur, puisqu'en fait il s'agit en fait d'une sorte de comment dire, c'est une sorte de, oui, c'est un opéra, donc il a à la fois écrit la musique et aussi les dialogues de la pièce de théâtre qu'il est en train de mettre en scène. Et donc ce metteur en scène est aussi acteur. Il interprète le premier rôle dans la pièce qu'il a écrite. Et il est en train de répéter. Et il s'adresse, son partenaire en fait est un enfant. Il s'adresse à des enfants, voilà. Je suis en hauteur au niveau du, dans une sorte de perchoir, donc je domine la scène, la répétition en fait, et ce metteur en scène demande s'il n'est pas possible d'obtenir une heure de répétition en plus. Il demande ceci à l'administration, si c'est possible également, s'il peut rester dans la salle une heure de plus pour répéter. Voilà. Donc le spectacle a l'air vraiment très bien. Et alors je suis accoudé à une espèce de c'est assez étrange, c'est un morceau de bois comme ça, je l'écoute comme ça, c'est sur une pièce de bois qui est noire, très belle. En fait, donc j'ai les coudes, je contemple la répétition de cette pièce opéra. Un peu à la manière de West Side Story, là, une espèce de comédie musicale en fait, voilà, qui mêle à la fois musique, théâtre et danse. L'accoudoir sur lequel mes coudes sont apposés, en fait, est incliné. C'est un bois noir, verni, très très beau. Mais qui est incliné, et donc je sens une attraction irrésistible vers le bas en fait, et je glisse et je crains de tomber, et en fait effectivement je fais une chute. Je chute et je me retrouve dans la fosse, plus exactement sous la scène du théâtre. Et je lève les yeux au ciel, enfin vers le haut, et il y a des planches de bois qui sont un peu espacées comme ça, et qui me laissent deviner la lumière comme ça qui perle au niveau du plateau. Et là, j'entends des voix, et je comprends qu'il y a des problèmes de mise en scène dans cette pièce. Et que le metteur en scène qui joue rencontre des difficultés. Voilà. Et donc je réfléchis et je me dis qu'il y aurait deux types de solutions à appliquer pour sortir de l'impasse. La première, en fait, quand je me suis réveillé au sortir du rêve, enfin je n'en suis pas souvenu, mais je sais qu'il y avait deux solutions. Donc la première, je l'ai oubliée. Et la deuxième à laquelle je pense, c'est que je trouve que dans cette pièce, comme cette pièce met en scène un conflit, je trouve que le camp adversaire, qui est représenté par des enfants, n'est pas assez représenté. Et que ça nuit à la dramaturgie de la pièce. Il faudrait qu'il y ait davantage d'enfants sur le plateau pour que le conflit existe davantage et que ce soit plus intéressant dramaturgiquement. Voilà, donc c'est la solution à laquelle je pense. Pour aider ce metteur en scène là qui est en difficulté. Et ni une ni deux, c'est ma pensée, ma réflexion intéresse énormément la direction. Et donc je suis invité au dernier étage du théâtre pour m'exprimer sur les solutions qui ont l'air d'intéresser la direction. Donc je suis reçu à une espèce de direction, de comité central, il y a une table, ils me font face, et à ma gauche et à ma droite, notamment, se trouvent des anciens collègues à moi, que j'ai connus quand j'avais une compagnie de théâtre, à ma droite, il y a une jeune fille qui s'appelle Edith, qui est une collègue de théâtre. Et elle me fait comprendre que ce serait bien que je fasse comprendre au directeur du théâtre que elle et ceux qui m'entourent ont l'habitude de consulter, de me consulter, ont l'habitude de prendre acte de mes conseils, en fait, voilà. Donc je sens qu'il faut que je me prête à un jeu qui consisterait à donner mes conseils, mais en même temps de dire que voilà, je travaille avec cette compagnie depuis longtemps et que du coup mes conseils sont les miens, mais sont ceux aussi que préconisent ces collègues qui m'entourent. Voilà. Et le reste s'arrête là.
Mais donc ce sera des conseils de professionnels.
Oui, ce sont des conseils de mise en scène, voilà.
Oui, mais là, vous dites que ce sont des conseils dont on peut tenir compte parce que ce sont aussi de ceux qui vous entourent, mais ça pourrait être aussi, puisque vous dites que vous avez fait partie d'une troupe, que vous étiez, j'ai pas compris, vous étiez quoi dans cette troupe ?
Il y a longtemps, il y a 10 ans, j'étais metteur en scène, effectivement, dans une troupe de théâtre.
Voilà, donc on pourrait tenir compte de votre avis en tant que professionnel, surtout. Puisque là, on vous sollicite vraiment pour avoir votre avis.
Voilà,
et donc là, c'est effectivement l'homme du métier qui serait aussi sollicité, puisque quand vous avez chu, vous avez tout de suite trouvé une solution qui pourrait venir pallier le défaut de construction ou le problème que rencontre le metteur en scène.
Oui.
Alors, ce que l'on voit, bon, effectivement, là, comme c'est votre métier, comme vous nous l'apprenez, il est évident que c'est vous que vous voyez en tant que metteur en scène. Hein. C'est votre potentiel, votre puissance créatrice qui est évoquée. Et donc vous êtes l'homme de l'opéra, vous êtes l'homme de l'œuvre complète.
D'accord.
Et donc là, le rêve montre que tout fonctionne bien, que votre puissance créatrice est à l'œuvre et que vous avez un potentiel de travail important. Il y a par contre quelque chose de très particulier, c'est que quand vous jutez, c'est là où vous trouvez l'élément qui manque. Donc, effectivement, vous savez qu'il faut recontacter l'enfance.
Ah oui.
Oui, puisque la solution que vous trouvez, c'est adjoindre des enfants dans la pièce, c'est ça ?
Oui, c'est ça, absolument.
Et donc, on peut penser qu'il faut d'abord, effectivement, que vous fassiez référence à votre enfant intérieur, que vous retrouviez des éléments de cette puissance créatrice de l'enfant, de l'imaginaire de l'enfant, ou de la juvénilité, de l'innocence. En tout cas, toutes les qualités qui sont propres à l'enfance, pour que ça fonctionne. Et on pourrait voir donc que vous êtes coupé en deux, puisque là, vous remontez aussitôt dans les étages, et qu'il y a donc l'homme trop responsable qui se coupe de l'enfant, mais c'est comme si vous faisiez des allers-retours entre les deux.
Ah oui.
Et donc, il y a un terreau dans lequel vous allez, mais c'est pas un terreau c'est pas un système dans lequel vous allez de façon consciente. C'est comme si vous passiez du haut au bas. Donc là, on voit qu'il y a un système quand même de dépression qui vous fait plonger. Mais cette dépression n'est pas inutile. C'est pour aller chercher au fond de vous les choses. C'est comme si le moment où vous êtes au fond du trou vous permet de vous reconnecter avec l'enfant et d'aller apporter toute cette matière en haut à la direction. Donc, à des instances qui sont un peu contrôlantes.
Absolument.
Mais donc là, c'est magnifique parce que vraiment, cette chute, puisque là, vous êtes happé irrésistiblement par cette pente.
Oui.
Vous tombez dans la fosse, donc là, on ne peut pas tomber plus bas que dans la fosse.
Ouais.
Et c'est là que la lumière jaillit.
Oui.
Pour vous retrouver aussitôt propulsé en haut. Donc là, on voit qu'il y a un système, effectivement, de haut et de bas. Donc une... je ne vais pas employer des termes médicaux, mais... Oui, ce que ça peut représenter, quoi.
Oui, enfin, en termes génitaux, je peux imaginer. Je ne sais pas si c'est ça l'idée, mais...
Voilà, donc c'est peut-être une tendance un petit peu maniaco-dépressive, ou en tout cas, vous passez de l'euphorie au sombre.
Ouais.
Et donc là, c'est ce qui est vraiment mis en scène dans le rêve, de façon magistrale, c'est l'utilité du système.
D'accord.
et que si vous aviez la faculté maintenant de vous connecter avec cette part d'enfance, avec donc ce terreau, vous éviteriez peut-être ces hauts et ces bas.
Ah, d'accord.
Et qu'est-ce qui vous empêcherait aujourd'hui, alors de façon consciente, de faire appel à l'enfant ? Pourquoi il y aurait ces réserves ?
Bah parce qu'il y a, une défiance vis-à-vis de l'enfance, enfin de l'enfant, en fait. Parce que l'enfant peut être irresponsable, l'enfant peut être, s'il manque de structure et de repères, il peut être... Si on donne les bons cours à l'enfant, s'il a trop de licence, enfin voilà, il peut prendre le contrôle, il y a peut-être un déséquilibre. Peut-être que l'enfant manque de.
Vous avez l'impression que vous avez manqué de cadre quand vous étiez enfant ?
Oui, je pense que le. Enfin, quand je les écoute, je pense que de façon innée. Il y a un culte de... Enfin, j'aime mon enfant intérieur, quoi. Voilà, il y a un culte de l'enfant. Mais par contre, c'est un petit peu ou l'enfant ou le parent intérieur, si vous voulez. Il n'y a pas beaucoup de...
Ah bah oui.
Là, il n'y a pas de dialogue, quoi. C'est ou l'un ou l'autre.
Ah oui, c'est ce qu'on voit bien dans le rêve. Hein.
Voilà, c'est ou l'enfant à toute licence et c'est le créateur génial à qui... qui n'a aucune limite, voilà. Ou bien c'est... l'instance contrôlante qui légifère pour l'enfant et il y a une absence de dialogue, on pourrait dire. Voilà.
Et donc là, c'est le système parental dans lequel vous étiez où effectivement, il n'y avait pas de dialogue entre l'enfant et le parent.
Oui, je pense.
Il n'y avait aucune écoute de l'enfant.
Ben, il y avait une écoute idéalisante et idéalisée de l'enfant. Je pense à ma mère, je pense. Et... qui a glorifié les vertus de l'enfant, mais sans nuance, sans réserve, sans d'une manière un petit peu puérile, quoi.
D'accord, en tout cas, c'était le discours, mais est-ce que dans les faits, c'était vrai ?
Ben... Ben je ne sais pas. C'est vrai que quand j'ai, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à être, comme on dit, dans la lune, dans mon monde, dans mes pensées. Et c'est quelque chose qui n'était pas blâmé, réprimé par ma mère.
Mais est-ce qu'elle s'intéressait à ce monde intérieur ?
Oui, c'était même plutôt perçu comme une vertu. Ça veut dire que ça voulait dire que si j'avais un monde intérieur, ça voulait dire que je me détachais des choses matérielles et extérieures du monde. Pour elle, c'était un gage de vertu.
D'accord. Donc ce serait de l'autre côté, du côté du père, que cette vertu n'était pas reconnue ?
Oui. Comme une absence de pragmatisme, une absence de... Oui, c'est ça, de... Un pôle masculin qui sera un petit peu atrophié, oui, c'est ça, ouais. Un manque d'ancrage dans le réel.
D'accord, donc là, ça aurait pu être vécu comme une double contrainte pour vous, du côté de la mère, la validation de ce monde et de ce système, et du côté du père, une négation et une obligation d'être responsable et adulte.
Bah, disons que pendant longtemps j'ai pris mon parti, j'ai pris le parti de la mère en fait. C'est-à-dire que j'ai mis beaucoup de temps à me dire voilà que à réaliser qu'il y avait des vertus du côté, on va dire schématiquement, il y avait des vertus dans le pôle de la réalité, dans le pôle du masculin, que le monde réel avait des ressorts qui étaient intéressants. Ça a un petit peu tardé chez moi, quoi. Voilà, ça s'est réveillé, mais jusqu'à 16 ans, on va dire que j'étais dans la croyance que la vraie vie se trouvait plutôt du côté du rêve et
oui, mais des là, choses un peu... Ce qui est quand même étonnant, c'est que Si c'est le cas, vous avez quand même une face opposée qui s'est fortement développée. Parce que bon, effectivement, il y a le côté homme orchestre qui est très présent, mais c'est comme si vous contrôliez tout. Et donc c'est comme si vous étiez devenu peut-être un peu trop surcontrôlant, trop adulte, et donc dans un masculin, pas assez souple. Peut-être d'ailleurs pour vous opposer à cette dynamique de l'enfance ou à ce monde qui était trop absorbant, je ne sais pas. En tout cas, dans le rêve, vous faites le lien. Donc je reviens effectivement à cette notion d'orchestre, d'homme-orchestre. Vous êtes vraiment partout, capable d'assumer tout sur tous les fronts, et même d'aller donc trouver en vous ces richesses, ces merveilles. Mais ce qui est étonnant, c'est la pluralité des personnages, puisque vous êtes tous les personnages du rêve. À la fois, vous êtes cet homme unique qui fait tout, mais en même temps, vous êtes toutes ces personnalités qui gravitent autour de vous. Et vous n'êtes pas encore complètement identifié à cette puissance de l'homme créateur. C'est comme si ce serait peut-être là où l'enfant reste et demeure a mis trop de barrières. Et c'est peut-être l'enfant qui a développé un surmoi trop fort, trop coercitif, par rapport, alors là, à ce moment-là, effectivement, à la liberté que votre mère vous aurait donnée. Et qu'elle aurait peut-être dû vous donner, à ce moment-là, plus de cadre et d'écoute réelle. Pour que vous puissiez canaliser. En tout cas, tout est fonctionnel, tout marche, simplement, il y a ce système qui n'est pas très agréable puisque vous tombez. Et là, vous connectez à nouveau un groupe d'enfants, puisque vous pensez que ce n'est pas un enfant qu'il faut mettre, ce sont des enfants. Et donc là, c'est comme si vous savez que vous avez la capacité aussi d'aller chercher les enfants au fond de chaque personne avec laquelle vous travaillez.
Ah oui. Oui, c'est vrai.
Alors, juste un point de détail, c'est la rampe que vous décrivez, l'espèce de balustrade sur laquelle vous vous appuyez. Parce que là, symboliquement, je ne vois pas très bien ce que ça représente, à part effectivement la pente, l'inclination. Ça vous rappelle quelque chose ? Parce que je pense que là, c'est un symbole personnel. Est-ce que c'est l'impression que vous aviez quand vous étiez en haut d'un balcon au cinéma ou qu'il y avait une attirance pour le vide, que la rambarde pouvait se transformer en pente glissante?
C'est étrange, c'est comme une planche de skateboard qui serait... qui serait censée protéger le spectateur. Mais en fait, lorsqu'il la pose ses coudes, en fait, ça le met en danger, en fait. C'est censé le protéger, mais en fait, ça l'invite à chuter, en fait. C'est assez ambigu comme...
Oui, parce que là, il n'y a pas de grippe sur la planche de skateboard.
Non, il n'y a pas de grippe. C'est un bois très verni, très beau. Vraiment très esthétique, attractif visuellement. Mais qui est glissant, en fait. Voilà, qui brille de beauté. Oui. Mais qui, en fait, est très glissant.
D'accord. Donc, à part la planche de skateboard, ça ne vous évoque rien de particulier?
Bah, ou une planche à voile, vous voyez, c'est une espèce de planche comme ça, là.
D'accord. Donc, ça peut faire penser à un objet, une salle de cinéma post-art déco, où il y aurait pu y avoir ce type de balustrade.
Oui, c'est ça. Ou un meuble. Vous voyez une table d'un bois noir un peu verni, un peu années 80, mais qui serait biaisé, quoi. Enfin, qui serait pas horizontal, en fait.
Oui.
Qui serait...
Alors l'image que ça m'évoque, moi, c'est la sensation de vertige qu'on peut avoir quand on est enfant, quand on est en haut d'un balcon.
Ah oui, c'est exactement ça.
Et cette espèce de fascination pour le vide, et là que vous mettez vraiment en scène, et donc ça vous ramènerait, je ne sais pas, Cinéma Paradisio par exemple, vos souvenirs d'enfance, vos premiers émois, ou dans une salle de théâtre, ou dans une salle de cinéma. Comme si vous aviez su qu'un jour vous seriez sur les planches.
Alors après, ça c'est sûr que j'ai vécu ça. Je me suis j'ai un jour je suis allé au théâtre et je me suis dit un jour c'est moi qui, enfin c'est moi qui, ma place c'est d'être là, c'est d'être celui qu'on écoute, qu'on voit, ça je l'ai vécu.
Et donc est-ce que vous avez réalisé votre rêve alors?
Ben je l'ai fait, en fait. Je me suis retrouvé à être seul en scène, à être celui qu'on voit et qu'on écoute, mais j'ai pas eu la satisfaction que j'en attendais. Donc aujourd'hui, à 40 ans, mon regard, c'est que j'ai fait un choix réactif. C'est que je voulais être vu et entendu, et voilà, c'est pour ça que j'ai fait ça, mais ça ne correspondait pas à une. C'était un conditionnement. Enfin, c'était pour répondre à.
Oui, mais justement, si vous réalisez aujourd'hui que vous avez réalisé votre rêve d'enfance, et que vous êtes à la place où vous deviez être. Parce que là, c'est comme si vous ne vous sentiez pas encore complètement légitime. Et que si, effectivement, vous connectez l'enfant et vous dites, bah, ça y est, on y est arrivé. Il y aurait peut-être un sentiment de légitimité beaucoup plus fort, qui pourrait faire le lien à ce moment-là entre le haut et le bas. Et un chemin que vous emprunteriez beaucoup plus calmement. Pas avec des hauts et des bas, quoi.
Oui, c'est vrai qu'il y a une espèce de conflit permanent entre l'enfant et le. Oui, c'est vrai. Il y a un conflit entre l'enfant et les. Et on va dire les puissances du réel, au sens des institutions, la norme.
Et voilà. Un principe de réalité qui serait trop fort.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une forme d'opposition, oui. Ça, c'est un peu l'enfant, la toute puissance de l'enfant, ou la toute puissance du jeu contre... la toute puissance rigide.
Voilà, parce qu'effectivement, est-ce qu'il y a antinomie entre le principe de plaisir et le principe de réalité? Et est-ce qu'on peut faire un pont, un lien entre les deux?
Ben, j'en ai fait l'expérience, oui, c'est possible.
D'accord, donc là, on reviendrait à la... Je ne sais pas si vous avez écouté le rêve précédent.
Oui.
Mais il faut que vous fassiez un lien, donc vraiment, entre cet enfant et vous. Et peut-être que, enfin je sais pas, je disais lui dire que ça y est, vous avez réalisé, et donc être en amour avec cet enfant, et que l'enfant puisse voir que l'adulte que vous êtes aujourd'hui est la prolongation de cet enfant. Et qu'il n'y ait pas de système de déni par rapport à ça, parce que là, dans ce que vous disiez, j'avais l'impression qu'il y avait un déni, que c'était pas bien d'être resté cet enfant.
Ah, mais c'est intéressant ce que vous dites. Oui, bien sûr. C'est qu'en fait, on pourrait penser que l'adulte est au service de l'enfant, en fait.
Ben oui.
Il est là pour encadrer l'enfant et rendre les rêves de l'enfant possibles.
Ben voilà, exactement, oui. Et qu'à ce moment-là, vous retrouviez l'unité complète en vous.
Ah oui, c'est un positionnement qui est intéressant, ça, qui est plus... Ah oui, c'est plus... oui, c'est beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est plus intéressant, là, c'est...
Voilà, parce que donc, il est possible que vous ayez trop entendu qu'il fallait sortir de votre rêve, ou que vous ayez interprété qu'il fallait que vous sortiez de votre rêve. Mais qu'au contraire, comme vous le dites très très bien, l'adulte est là pour réaliser le rêve de l'enfant, qui serait son projet de vie. Puisque vous avez su qu'un jour vous serez sur scène, donc vous êtes à votre place.
Ben oui, c'est exactement ça, en fait, ce que vous dites là. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de conflit permanent. Oui, c'est ça, oui. La voix qui dit... l'enfant, c'est un mauvais choix, c'est une voie irrationnelle, parce qu'en fait, je suis l'enfant, c'est moi l'enfant, donc
oui.
On peut pas faire sans lui, hein, puisque c'est moi, donc travailler contre lui, c'est travailler contre moi, donc c'est pas... Donc le salut, c'est ça, c'est le sur-moi, ou c'est les forces...
Oui, c'est ça, on peut appeler ça le surmoi, effectivement, qui s'oppose aux pulsions du ça. Mais là, vous avez les outils pour bien discerner ce qui est de l'ordre de l'enfant authentique et non pas de l'enfant névrotique. Parce qu'il y a deux formes d'enfance. Il y a ceux qui veulent rattraper leur enfance, et donc là, on est un peu dans la névrose. Et il y a ceux qui sont en connexion avec l'enfant authentique, à ce moment-là, qui sont dans la pureté, dans la libération et le don.
D'accord.
En tout cas, donc, très beau rêve qui peut-être va vous donner des clés pour mieux aller dans une stabilité. Parce que ce passage-là, qui est vraiment très marquant, vous vous retrouvez dans la fosse et ensuite vous vous retrouvez tout là-haut, c'est la clé du rêve. Alors, on voit qu'il y a deux états.
D'accord.
Voilà, Alexandre.
Écoutez, merci beaucoup, ça m'éclaire beaucoup sur le... une sorte de positionnement vertueux qu'il faudrait adopter vis-à-vis des forces de l'enfance. Merci beaucoup, c'est super.